à moi.
Stéphane Servin, Xavier Dorizon et Antoine Christo, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Casterman de votre bande dessinée Ulysse et Cyrano. Alors avant d'analyser un petit peu le contenu de votre BD, je dois d'abord vous féliciter pour le bel écrin et surtout vous demander, mais qui a eu cette idée folle de cette superbe présentation ?
La présentation ? C'est une idée collective. C'est venu petit à petit, ça, je pense. Ouais. C'est venu petit à petit. Hein. Enfin, si on parle de l'objet, on parle vraiment de
l'objet. Oui, dans un premier temps, quand on voit... En fait, c'est un peu comme en cuisine, le plaisir des yeux, quoi. Non
bah, c'est venu petit à petit. Hein. Parce qu'en fait, c'est tout au début. Alors, encore une fois, je ne suis pas complètement sur la chronologie, on en parlait tout à l'heure, mais... au début, c'était un tome. Après, ça a dû être trois tomes. Ça aurait pu faire trois tomes. Et c'est redevenu un seul tome. Et donc, à partir du moment où c'est redevenu un seul tome, on a commencé à réfléchir à une façon d'en faire vraiment un objet en cohésion avec le thème, tout simplement.
Donc, généreux.
Voilà. Tellement qu'on puisse dire.
Et pas trois volumes qui auraient été maigres.
Alors, je me suis permis de percevoir trois niveaux de lecture. Il y a le récit de Cyrano, le chef étoilé qui se rebelle contre les dictats de la corporation avec cette bataille entre cuisine traditionnelle et nouvelle cuisine. Il y a le parcours initiatique du jeune Ulysse promis à un brillant avenir dans la grande industrie, tiraillé entre le sens du devoir, l'esprit du patriarcat et sa passion pour la cuisine. Et enfin, les déboires du père, patron d'entreprise qui se bat pour laver son honneur avec en corollaire l'effort de guerre, la collaboration, la nationalisation, les boucs émissaires d'après-guerre. Ça vous va comme analyse ?
Très bien.
Ouais.
Est-ce que vous avez construit trois lignes du temps avec parfois ces lignes qui s'entrecoupent ? Est-ce que vous aviez chaque fois procédé de façon linéaire au niveau de la construction du récit ?
Je pense qu'avec Antoine, on a eu assez rapidement en tête une idée simple, c'est qu'on voulait raconter une éducation au bonheur. Et une éducation au bonheur, c'est un récit qui, en général, a plusieurs étapes, qui sont tout simplement un personnage qui n'est pas dans le bonheur, puis un personnage qui va commencer à se connaître lui-même, c'est-à-dire savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il fait vibrer, et savoir là où il est bon. Et ensuite, un personnage qui va arriver à convaincre le monde, l'univers, son environnement, de le laisser être là où il est heureux. C'est ces trois étapes-là, en fait, une éducation au bonheur. Et une fois qu'on a eu ça en tête de façon assez claire tous les deux, on s'est demandé quels allaient être les obstacles, les conflits auxquels notre personnage allait être confronté. Et assez logiquement, sont arrivés tous les paramètres dont vous parlez. Ça se fait plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre ce qu'on raconte. On met en place une hypothèse dramatique, ça s'appelle comme ça en scénario, c'est le « et si ». Et si un fils de milliardaire dans les années 50, suite à une rencontre, décidait de devenir cuisinier. On revient à les problèmes qui arrivent immédiatement. Papa serait pas d'accord, maman serait pas d'accord, l'univers social serait pas d'accord, lui-même aurait de gros doutes, peut-être même que celui qu'il forme verrait les problèmes. Et une fois que ça est mis en place, il n'y a qu'à tirer les fils. Et les fils amènent à tout ce que vous avez dit.
Alors parlons de l'époque justement, donc on débute en 37, on se retrouve dans les années 50, vous qui êtes quand même cinquantenaire, bon Stéphane 54 ans, Xavier 51, Antoine ne fait rien trouver au niveau de vous cachez votre date de naissance.
Non, je ne la cache pas, mais je suis un jeune auteur, mais je vais avoir 55.
C'est l'aîné de la bande,
c'est ça, je suis doyen.
Et donc pourquoi vous aviez choisi cette période qui finalement n'est pas vraiment la vôtre ?
Parce qu'en fait, c'est une période qui, à la fois, permettait de dramatiser notre récit à plusieurs égards. Parce que vous parliez du père, bon, on est après-guerre. Donc voilà, on est dans cette période où il peut y avoir des règlements de compte, où on cherche des boucs émissaires, comme vous le disiez. Et puis, par rapport à la cuisine, dans le milieu social d'Ulysse, en 1952, vouloir devenir cuisinier, c'est juste inconcevable. Voilà, donc c'était aussi une façon d'accentuer le conflit qu'il allait devoir régler.
Mais ce pan de l'histoire, finalement, le jeune lectorat ne le connaît pas vraiment. Donc c'est pas évident de...
Non, mais le lectorat, par contre, voit bien la résistance qu'il y a autour
sociale.
De l'Union, bien sûr, la résistance sociale. D'ailleurs, qui est montrée à travers une blague au début, quand il est en cours, Janson, on dit bien aux élèves, le professeur dit aux élèves que si jamais ils bossent mal, ils termineront éplucheurs de patates. Voilà, c'est-à-dire la honte que c'est d'avoir à l'époque un métier manuel. Et puis,
un métier de domestique.
Et un métier, exactement, un métier à l'époque de domestique. Et on est loin des top chefs aujourd'hui, où, et c'est une bonne chose d'ailleurs, où on a starifié des artisans. Aujourd'hui, on est dans une époque, et je trouve ça très bien, où on starifie des artisans. Des pâtissiers, des cuisiniers, des boulangers, des coiffeurs. Etc. Et c'est très bien, c'est des gens qu'on des métiers tout aussi admirables et qui en plus donnent sans doute beaucoup plus de bonheur aux autres que des métiers malheureusement en col blanc et beaucoup plus ennuyants. Mais simplement, c'était encore plus vrai, voilà, ce problème-là était vrai dans les années 50. Et j'ajoute qu'on a aussi choisi cette période parce que il y a cette idée d'abord de lutte entre deux cuisines qu'on voit bien, l'une va peut-être venir ou pas, et ce qui moi en tant qu'auteur me rappelle évidemment le changement qu'il y a eu plus tard dans les années 60 avec l'arrivée de la nouvelle vague et qui plus tard arrivera dans la bande dessinée avec l'arrivée de la nouvelle bande dessinée. On voit bien ces questions d'école, moi elles me parlent à plusieurs étages bien sûr, mais c'est, et on voit bien qu'elles sont vraies dans tous les domaines, de la cuisine à la bande dessinée. Et enfin, parce que les années 50 pour nous, il y a quand même une illusion, une sorte de bonheur perdu. Hein. C'est un bonheur un peu nostalgique qui correspond à une réalité, il faut bien le dire. Il y a beaucoup de choses qui étaient très très dures, voire horribles dans les années 50. Mais pour ce qui était de vivre heureux à la campagne, il n'y avait pas beaucoup de pesticides.
C'était mieux avant, comme on dit.
Oui, alors moi, je ne crois pas du tout. Sincèrement, je ne crois pas une seconde où c'était mieux avant.
Non, c'était mais pas mieux avant, c'était différent.
Ouais. Voilà, et quiconque d'ailleurs a fait un peu d'histoire, c'est que ce n'était pas du tout mieux.
J'aurais pas aimé avoir mal aux dents à cette époque-là.
Oui, j'aurais pas aimé être une femme dans les années 50. Ouais.
Ce côté intrigue, enfin trois intrigues finalement, dès le départ, vous saviez qu'il allait avoir cet élément moteur dans vos recherches, parce que c'est vrai qu'on a hâte de savoir ce qu'il advient de ces personnages quand même.
C'est une motivation. Alors, il y a une hiérarchie, attention, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que par exemple, quand on a la guerre, le problème de la collaboration, et par exemple, un outil à l'intrigue principale. L'intrigue principale, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'éducation au bonheur. Pour que cette éducation au bonheur soit possible, il faut qu'il y ait cette rencontre avec ce personnage riche en couleurs qui est Cyrano, cette sorte en fait d'Alexandre le Bienheureux, si on prend une référence jouée par Philippe Noiret. Et pour qu'il y ait cette rencontre, il faut quitter Paris. Pourquoi quitter Paris? Tiens, on est dans les 50, paf, qu'est-ce qui arrive? Cette idée de collaboration. Comment cette idée de collaboration pourrait s'inscrire toujours dans cette unité thématique? C'est-à-dire qu'un des enjeux du métier de scénariste, il est contradictoire, c'est de respecter à la fois l'unité et la variété. Unité de thème, il y a une vraie unité de thème dans l'Odyssée Cyrano, c'est la quête du bonheur, mais la variété de situations qui permet de comprendre la complexité de ce thème unique. D'où les intrigues secondaires qui arrivent.
La Bourgogne, c'est vous, Antoine, qui l'avez suggéré?
C'est nous deux, mais c'est parce que voilà, moi j'ai des attaches fortes en Bourgogne. Mais je suis un peu comme Ulysse. Moi, l'histoire démarre à Paris et elle se finit en Bourgogne. Moi, je suis entre Paris et la Bourgogne assez souvent aussi, donc voilà.
Non, puis tu peux le dire. En plus, Antoine avait comme autre qualité, en plus d'être un très bon scénariste, mais en plus d'être un grand cuisinier. Antoine est un très très bon cuisinier. Il a travaillé dans les vignes, il connaît chaque coin de son coin de Bourgogne près de Couche,
chaque recoin
de sa poche. voilà, toute la partie, par exemple, toute la partie culinaire, cet amour de la cuisine et tout, c'est vraiment, ça a été le travail d'Antoine. Moi, je me suis un peu documenté auprès de certains restaurateurs, notamment un restaurant qui s'appelle Les Colonnes, où j'écris tous les matins, où j'ai interrogé...
À qui on a donné 3 étoiles, d'ailleurs, au passage.
Voilà.
Et, ça, je vais y revenir, c'est là, donc, Christine et Camille Lérolle, là, d'ici les Moulineaux. Ouais. Ouais. Et je me suis demandé, justement, quelle était leur contribution, puisque vous les remerciez, à la fin de l'ouvrage. Je crois que maintenant, ça s'appelle Julien et Camille, non?
Maintenant, c'est lui, parce que leurs enfants ont repris. Non, mais d'abord, quand même, la grosse contribution culinaire de l'album, c'est le travail d'Antoine. Je ne parle pas de sa représentation, qui a été un autre enjeu très difficile au monde dessiné. On pourra en parler, parce que représenter la cuisine, c'est très compliqué. Challenge.
C'est très difficile.
Mais l'écrire, déjà, ce travail d'Antoine, et pour répondre en 2 secondes, Christine et Camille ont juste m'expliquer un peu la vie, leur vie, comment eux étaient devenus cuisiniers et à quoi ils faisaient attention chaque jour. Par exemple, regarder la météo. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'un cuisinier regardait la météo. Bah, si.
Ça, c'est surprenant, en effet. Justement, je suppose que vous avez le film d'Audin Bouffon. que je trouvais assez froid et finalement assez distant, alors que dans votre BD, on rentre dans la cuisine, on sent les saveurs et on participe à la préparation des mets. Je me suis demandé, Servin, si vous qui êtes passionné d'informatique et que vous avez déjà utilisé l'informatique pour créer la 3D, si vous l'avez utilisé.
Non, je n'ai pas utilisé, j'ai utilisé l'ordinateur pour dessiner, et je me suis arrêté, c'est uniquement ça. Là, c'était, il me fallait un dessin charnel sur cet album, donc je ne suis pas allé au-delà du simple trait. Mais c'est vrai, c'est dans les vieilles BD, quand je faisais de la SF, je m'amusais à modéliser mes vaisseaux, des trucs comme ça. Mais dans Lycée Cyrano, je suis resté une vision traditionnelle du dessin, bon, sur tablette évidemment, puisque voilà, c'est quand même très pratique pour faire la bande dessinée. Mais techniquement, voilà, je me suis astreint à l'exercice pur du dessin.
Alors, ce que j'ai aussi apprécié, ce sont les répliques qui font mouche. J'en cite quelques-unes. Un ingrédient essentiel, le plaisir. S'il n'y en a point en cuisine, il n'y aura point dans l'assiette. La cuisine, c'est dans le cœur que ça se décide. Une recette, c'est une partition. Tu sais la jouer, c'est juste le minimum. Après, il faut l'interpréter, que tu en fasses ta recette. Et enfin, la cuisine, c'est comme le théâtre. Chaque soir, tu remets le couvert. Qui est-ce qui a cette punchline dans ses carnets ?
Nous deux.
Oui, nous deux, ouais.
Vous les aviez déjà imaginés ? Est-ce que vous tenez justement ces petits carnets ? Ou est-ce que c'est au moment de l'écriture que ça vous est venu ?
La formule sur le théâtre, je l'ai entendue. C'est quelque chose où toi, peut-être, en tout cas, l'un de nous deux l'a entendu, d'un cuisinier qui nous a... Je crois, hein, tu me corriges, Antoine, mais je crois que ça, on l'a entendu. Les autres viennent de nous, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on... C'est toujours pareil. C'est comme ça qu'on construit la cuisine, ouais. C'est comme ça qu'on construit...
Et puis c'est aussi parce que dans notre façon de travailler avec Xavier, on a énormément échangé. C'est-à-dire que l'histoire, on l'a écrite à quatre mains, deux cœurs, une âme. Et vraiment, ça a donné lieu à énormément d'échanges. Et il y avait un ping-pong permanent et beaucoup d'allers-retours entre nous. Et c'est en fait... On se prenait même au jeu parfois, hein. Et c'est comme ça que les répliques, elles viennent.
C'est beau, en tout cas. C'est vrai. Alors, justement, la naissance du projet, moi, je me suis demandé si c'est à l'issue d'un repas, vous avez fait bonbon, ce que vous êtes arrivé à dire, tiens, si on parlait vocation, passion, plaisir.
Non, en fait, alors, l'histoire, elle est venue... en fait, on avait un... Xavier, à un moment donné, était sur un projet, et puis on avait échangé ensemble sur ce projet. Et puis on avait eu beaucoup de plaisir à... Xavier m'avait embarqué dans la fin de ce projet et on avait eu beaucoup de plaisir à écrire ensemble. Et ça a été quelque chose d'extrêmement fluide. Bon, on se connaît depuis des années, on est très proches, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et puis il y a ce plaisir-là qui est venu, qui a généré du bonheur aussi. Et à partir de là, on s'était dit que ce serait bien de poursuivre cette aventure, de renouveler ce bonheur qui a été le nôtre de travailler ensemble. Et puis moi, j'avais une idée d'histoire sur un cuisinier qui se passait en Bourgogne, etc. Puis de fil en aiguille, on en a discuté. Puis Xavier dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose autour de la transmission ? Et puis le projet, il est né comme ça. Et puis on est rentré après dans cette écriture en se disant, qu'est-ce qu'on veut raconter ? Pourquoi ? Et c'est ce qu'expliquait Xavier tout à l'heure sur ce changement, cette quête du bonheur.
Vous êtes trois habitués des tables étoilées ou vous êtes des bosseurs de maths ou finalement les deux ?
Ah, alors, Antoine Taudin, c'est un super cuisinier en tout cas dans le fait. Et dans ce qu'on aime, on va dire, sur Stéphane, tes restaurants préférés, c'est quoi toi ?
Moi, je vais pas souvent au restaurant en fait. Donc,
Vous mangez par procuration ?
Je mange par procuration. Non, moi je suis plus. Je suis objectivement plus cuisine de Cyrano. Je tartiflette et ragognasse, quoi, c'est ce qui me plaît. En fait. Les choses qui ont. Voilà. C'est ce qui me plaît. Je connais pas très très bien. Alors après, je dis que ça me plaît parce que je connais pas très bien l'autre versant, certainement, que j'aimerais aussi. Mais voilà, c'est plus une question de. Par contre, j'aime cuisiner. L'avantage de travailler chez soi, quand on est en BD, je travaille chez moi, c'est qu'on peut passer un peu de temps à cuisiner aussi. Je peux laisser mes trucs.
Entre deux planches.
Ouais, c'est bizarre. On a le temps, j'ai le temps de le faire, en fait. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, ouais.
Tu peux faire un gigot de 7 heures, quoi.
Je peux le faire. Ça.
Très petite
épreuve d'agneau confite.
À la fin de l'ouvrage, il y a quelques recettes, dont notamment le poulet aux écrevisses. C'est maintenant le plat que vous servez quand vous avez des convives chez vous ?
Non, parce qu'on essaye. Moi, j'essaye toujours de renouveler, de pas toujours faire la même chose, à part quelques grands classiques. Mais moi, je trouve que par rapport à la question que vous posiez sur la cuisine et sur le type de cuisine. On peut être bouleversé dans un 3 étoiles en mangeant un plat qui, à un moment donné, susciter une émotion absolument dingue parce qu'il y a une association à laquelle on n'a pas pensé, à la fois en termes de goût, de texture, etc. Il y a des... Mais je trouve qu'on peut aussi avoir la même émotion en réalité avec un bœuf bourguignon fait à partir d'une joue de bœuf qui va être fondante, une sauce qui est juste parfaite. Et en fait, c'est, que ce soit une cuisine dite simple ou une cuisine sophistiquée, ce qui est important, c'est l'émotion en fait. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait qu'on ressent le plaisir de... Voilà, de...
Ouais. Moi, je te dirais que j'aime beaucoup moi, une cuisine effectivement de bistronomie ou de presque brasserie, plus qu'une cuisine étoilée, pour laquelle, bien entendu, j'ai une immense estime. Pour une raison simple, c'est qu'elle crée un moment que je préfère. C'est-à-dire que le moment que permet de réaliser la cuisine de bistronomie est un moment, à mon sens... plus chaleureux, plus ouvert
et festif,
plus festif, plus enclin au partage. C'est vrai que on parlait tout à l'heure du grand Sébastien Bras. Moi, j'ai eu la chance d'aller dîner. Le dîner est extraordinaire, mais l'endroit est tellement beau, tellement classe que on se retient un peu quand même avant de rire fort et de taper dans le dos de son voisin. Voilà, presque. Et Dieu sait pourtant qu'ils ont un service extraordinaire qui font. D'ailleurs, les étoilés ont beaucoup évolué. Ils essaient beaucoup plus de
moins
gens à l'aise. C'est beaucoup moins guindé. Ils ont un maître d'hôtel, pareil, extraordinaire, qui met les gens à l'aise, très souriant. Ça, bon. Mais dans le fond, la nappe en carreau et l'excellent poulet, et voilà, moi, me mets à l'aise. Je me sens plus chez moi parce que j'ai mine de rien des origines modestes. Et voilà, je suis dans mon monde. Et donc, je peux plus rigoler avec mes copains. Je pense que c'est pour ça que je préfère cette cuisine.
Et moi,
je peux prendre,
ce qui m'embête dans les. Alors, j'aime beaucoup les étoilés, enfin voilà, mais ce qui m'embête un peu. C'est la succession des 5 ou 6 plats avec des micro-portions, on peut pas y revenir, on peut pas. Et voilà, je suis un peu comme Xavier, c'est-à-dire que ça correspond pas à mon plaisir et à mon voilà, ce côté assez jouissif qu'on peut avoir de se resservir, de pouvoir et puis voilà, cette succession de saveurs très différentes comme si à chaque fois il fallait cocher la case de la volaille, du poisson, etc. C'est un côté, je trouve, un peu
Oui. Et puis alors, il y a un point dont je me suis rendu compte, c'est que ma mémoire fait que, et je pense qu'on est nombreux comme ça, fait qu'on peut se souvenir très bien de l'excellente terrine, de l'excellent plat. Ouais. Et je n'arrive pas, ces plats sont souvent.
Et parce que qui trop embrasse mal étreint.
Ah ben voilà. Les dialogues, pof, ça en direct.
Alors pour vous cuisiner, c'est donner du plaisir ou se faire plaisir, altruisme ou égoïsme?
Alors, pour moi, c'est uniquement faire plaisir aux autres. On peut pas. Enfin, moi, en tout cas, moi, j'arrive pas à cuisiner si c'est juste pour moi. Mmh. D'ailleurs, quand je suis tout seul, je cuisine pas.
Moi, je pense que c'est ça se résume à ce qu'on fait. Je veux dire, on fait un livre. C'est aussi ça, c'est donner du plaisir aux autres. Dans ce sens-là, que je vois les choses.
Oui, je partage tout ce qui est dit, mais c'est lié. C'est-à-dire que vous faites pas de bande dessinée. À mon avis, on peut pas faire essayer, en tout cas, de faire de bonnes bandes dessinées.
Oui,
de bons films. Si à la fois, c'est en même temps, comme dit un président français, si en même temps on n'a pas très envie de se faire plaisir à le faire, et en même temps si on ne veut pas donner beaucoup de plaisir. Moi je me souviens, quand j'étais tout jeune, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Van Damme, et je lui demandais des conseils de base sur l'écriture. Et le premier conseil qu'il m'avait donné, c'est: en tant que scénariste, tu ne dois pas emmerder ton lecteur. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est pas ne pas emmerder. Le sous-texte, c'est tu dois lui donner du plaisir. Mmh. Et il a raison. Et il n'y a rien de plus terrible que de se dire qu'on fait une planche qui va ennuyer un lecteur. Donc c'est les deux. Et on peut pas avoir ça si on n'a pas de plaisir à faire.
Ça, c'est sûr.
Oui, oui.
Au cours de ce voyage dans le temps, on découvre le micro-ondes révolutionnaire Radarange. Oui. J'ai été fouiné. Découvert en 1947 par les établissements Rayton. Et alors aussi, il y a le film plastique étirable. Ça a l'air d'être ancien comme tout. Et finalement, on pratique maintenant comme si c'était une évidence. C'est, C'est une découverte quand même aussi, comme à l'époque. C'est révolutionnaire.
Ah, c'est révolutionnaire à l'époque, ouais. Bien sûr. Comme le fait d'ailleurs de fumer sous une cloche. Ouais. Voilà, c'est des techniques de cuisine qui...
C'est vrai que c'est en quelques planches où on découvre tout en une fois.
Et se rend compte qu'il a changé de monde, ouais. En fait.
Il est resté dans son monde. Le monde a continué à évoluer, mais lui, il est resté dans sa cuisine bourguignonne. Et voilà, et le monde a continué, il est resté un peu en marge. D'ailleurs, c'est pour ça que ça lui donne autant de mal pour essayer de... D'ailleurs, il le comprend. Il dit qu'à un moment donné, pour le concours, Ulysse, il va falloir monter d'un cran. Et c'est pour ça qu'il sacrifie beaucoup de choses pour essayer d'aller comprendre et de rattraper ce retard.
Après, les outils changent. C'est-à-dire que, par exemple, Stéphane en parlait tout à l'heure. Lui, il dessine en ce moment plus avec un papier et un crayon, mais il dessine sur une tablette. L'outil change. Mais pas la discipline, pas l'envie. Et il se passe deux changements, effectivement, dans cet album qu'on voit, mais qui sont vrais dans tellement d'autres domaines. C'est là où c'est aussi intéressant, je pense, et que c'est symbolique. C'est qu'il y a un changement d'outil, ce qu'on vient d'écrire, et surtout, il y a un changement d'objectif. C'est-à-dire que ce que cherche à faire Lecoq, qui est le rival et l'ancien disciple de Cyrano dans sa cuisine, il n'a pas les mêmes objectifs et les mêmes attentes. Là où l'un va être dans la générosité, par exemple, et dans ce côté très roboratif dont parlait Antoine, l'autre va plutôt être dans une forme de minimalisme. Bon. Et c'est là où se font les vrais changements, plus que dans les outils. Et la question, c'est, est-ce que... je parlais tout à l'heure de cinéma, il y a eu le cinéma classique, et puis la nouvelle vague. Mmh. Et puis il y a eu la bande dessinée classique, dite franco-belge, puis la nouvelle bande dessinée, du roman graphique, du roman autobiographique, etc., etc. Ou la dite BD avant-gardiste. Et à chaque fois, on doit se poser la question de dire, mais est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Et souvent, on le voit, hein, les écoles s'affrontent. Alors qu'en réalité, mon opinion, c'est que chaque école a quelque chose à dire. Simplement, ils n'ont pas les mêmes choses à dire. Et c'est une des leçons qu'on va devoir aussi apprendre.
Et il y a de la place pour tout le monde.
Exactement.
Antoine, une question. Je me suis demandé si finalement, le personnage d'Ulysse ne vous ressemblait pas entre le droit social, le droit de chez Hermès ou le droit au travail et l'écart à 180 degrés du 9e ère.
Alors, s'il devait ressembler à l'un d'entre nous, je pense qu'il ressemblerait plus à Xavier, en fait, finalement.
Ah bon ?
On va découvrir quelque chose.
Je suis content d'entendre ça. Si. Bah, parce que par ton histoire, parce que par ce changement que tu as opéré à un moment donné... Et moi, j'ai pas opéré véritablement de changement. Je pense que j'aurais adoré être comédien quand j'étais jeune. J'ai pas eu le courage d'Ulysse, justement. Moi, j'ai pas eu le courage d'Ulysse. J'ai écouté mes parents. J'ai écouté mes parents qui m'ont dit fais ton droit. Et puis après, tu verras. Et puis en fait, après, j'ai été mangé par la vie.
Oui, j'ai beaucoup de. Enfin, bon, la vie, on a fait un bon plat. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, j'en connais beaucoup à qui on a dit non, mais passe ton bac d'abord.
Ouais.
Et alors, il y en a qui, à 50 ans, changent. Voilà, j'ai un copain à 50 ans, il va devenir producteur. Mais à 50 ans. Alors, parfois c'est bien, parfois. Je pense qu'il y a des moments aussi pour accepter ses responsabilités. Il n'y a pas de mal à ça. Et puis c'est plus ou moins facile, effectivement, comme je le disais. Moi, j'ai pas eu à me battre. J'ai eu à travailler, mais j'ai pas eu à me battre, ce qui n'est pas la même chose. Moi, j'ai été soutenu par tout le monde, donc c'était facile.
Stéphane, Xavier, Antoine, un grand merci. Et encore appel, Ulysse et Cyrano aux éditions Castelmont. Merci.
Merci à vous. Merci à vous.